Et celui qui écoute, qui ne met pas en pratique, est semblable à quelqu'un qui construit sa maison sur le sable. Lorsque les intempéries sont venues, la tempête, la pluie, cette maison s'est écroulée. Alors que celle construite sur le roc a tenu bon, Seigneur. Nous voulons construire nos vies sur le roc de ta parole. C'est vrai que, Seigneur, ta parole peut paraître parfois très évidente et facile et nous pousser ainsi à ne pas mettre foi en elle. Mais Seigneur, nous voulons que tu nous augmentes la foi, que nous ayons la foi des enfants, que nous croyons textuellement ce qui est écrit, Seigneur, car ta parole est la vérité, ainsi que la vie. Nous allons lire dans Jean 19. À partir du verset 25. Jean 19, à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Alors, je vais parler de la famille de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, « Je veux aller au ciel, je veux aller au ciel. » Depuis qu'on est chrétien, tout le monde veut aller au ciel. Et le problème, c'est qu'au ciel, on va retrouver tous ceux qui veulent aller au ciel et qui passent par Jésus. Alors, le ciel, ça dure combien de temps? Ça dure des milliards d'années. Et si tu n'arrives pas, par exemple, à vivre avec un frère et une sœur ici sur terre, comment veux-tu vivre avec lui des milliards d'années là-bas au ciel? On dit on veut aller au ciel, mais il faut préparer le ciel. Au ciel, nous serons, pour ceux qui croient véritablement en Jésus-Christ, toujours ensemble. Parce que nous serons les enfants, la famille de Dieu. Il sera au milieu de nous et nous serons tout le temps ensemble. Donc, un des paramètres qui montre que quelqu'un est prêt pour le ciel, c'est lorsqu'il est prêt à aimer les frères et sœurs. Lorsqu'il est prêt à s'intégrer à la famille sur terre. Il est écrit que dans la fin des temps, il y a beaucoup de gens qui viendront vers le Seigneur dire, « Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, nous avons fait ceci, cela. » Et le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ces gens-là, ils devraient être des gens qui prêchaient, qui faisaient des miracles, qui faisaient des choses pour Dieu. Mais ils n'étaient pas dans la famille de Dieu parce qu'ils n'appliquaient pas la parole. Parce que certains seront étonnés, croyant que bon, ils ne volent pas, ils ne tapent pas sur les gens, donc ils sont qualifiés. Non, bien-aimés, on est qualifiés lorsqu'on est un enfant de Dieu. Et si on est vraiment un enfant de Dieu, bien-aimé, j'insiste, on aimera les autres enfants de Dieu. Que personne ne vous trompe, bien-aimé, tu peux avoir tous les titres du monde. Pasteur, super apôtre. Mais si tu n'aimes pas les enfants de Dieu, si tu n'aimes pas la compagnie des enfants de Dieu, il y a un doute sur ta conversion. Il y a un doute sur ta qualification pour le ciel. C'est vrai. Ce n'est pas parce que on n'aime pas les enfants. Il peut arriver qu'on n'aime pas, ou bien qu'on soit dérangé par la présence de certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien. Mais, il faut qu'on se rattrape très vite. Parce que le Seigneur a fait de nous des enfants de Dieu. Et nous devons enlever de notre tête la logique individuelle. La logique du salut, c'est vrai, d'un côté, elle est personnelle parce que c'est, tu dois t'engager personnellement. Mais tu t'engages à quoi? Tu t'engages à devenir enfant de Dieu. C'est ça à quoi tu t'engages. Mais comment tu t'engages à devenir enfant de Dieu? Tu ne peux plus supporter les autres enfants de Dieu. Tu ne peux plus supporter les bien-aimés. Tu ne vis pas la famille de Dieu. Il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème parce que la personne que tu évites, la personne que tu rechignes de voir, mais cette personne, tu la verras au ciel. Donc, autant s'habituer à elle sur la terre. Bien-aimé, Jésus a dit à sa mère, « Voilà ton fils », en parlant de Jean. Marie avait d'autres fils, ne vous en faites pas. Il avait sa famille, elle avait sa famille physique. Mais Jésus a voulu nous laisser un enseignement. Il y a une famille spirituelle dont il faut tenir compte. Lui, le Seigneur, lui-même le Seigneur, le roi, a tenu compte. Lui qui n'était pas obligé de tenir compte de cela. Mais il a tenu compte. Il a lui-même, il s'est soumis à ça. Il a dit, bon, ma maman va rester chez Jean. Il n'a pas dit, en tant qu'aîné, il pouvait donner donc des instructions. En tant qu'aîné de la famille, il a dit, maman va rester chez Jean. Les autres devaient se soumettre. Et nous, les chrétiens, il nous a laissé une leçon. Il a dit, il y a la famille de Dieu. Et il faut en tenir compte, bien-aimés. C'est très important. Souvenez-vous, les premiers chrétiens. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. Les premiers chrétiens, dès le départ, ils ont pratiqué cela. Verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà qu'était leur vie. Ils vivaient ensemble, ils mettaient tout en commun. Pourquoi, bien-aimés? Parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient les enfants du même Père. Ils avaient compris que c'était la famille de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous rencontrez un chrétien, même à 10 000 kilomètres, vous allez avoir l'impression que vous vous rencontrez vous-même. Vous allez discuter avec lui, vous allez avoir l'impression que c'est toi-même à qui tu parles. Parce qu'on a le même maître en nous. On a le même Seigneur. Il est écrit, il faut naître de nouveau. Mais naître de nouveau, c'est quoi? C'est laisser Jésus naître en toi. Et quand tu rencontres un autre vrai chrétien, tu as l'impression que tu t'es rencontré. Tout ce que tu parles, tu dis, lui dit la même chose et vice-versa. Parce que on a le même Seigneur. Et bien aimé, il faut savoir qu'il peut y avoir quelques différences. Il peut y avoir quelques oppositions, mais on sait dans son cœur que ça, c'est mon frère. L'autre sait aussi que ça, c'est mon frère. C'est clair. Bien-aimé, dans Galates 6 même, c'est écrit qu'il faut venir en aide à tout le monde, mais en priorité aux frères dans la foi. Ce n'est pas pour rien. Parce que le Seigneur veut vraiment qu'on intègre le fait que nous sommes une famille. C'est très, très important. Et quand j'ai dit une famille, il ne s'agit pas d'une église locale seulement. Il s'agit de l'Église corps du Christ. Donc tous les chrétiens, nous sommes une famille. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants du même Père. Et si vraiment on est attentif, on le remarquera que nous avons la même chose en nous. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcer les relations. Je suis en train de dire que toi, dans ta tête, tu dois te dire, je suis dans une famille. Et les enfants d'un chrétien, ce sont comme tes enfants. Tu dois considérer vraiment tout chrétien comme étant ton frère et ta sœur. Maintenant, si Dieu te montre que ce n'est pas un chrétien, là, c'est autre chose qu'il fait semblant. Là, c'est autre chose. Et si cela est clair, hein, parce que je ne dis pas que Dieu te montre dans un songe ou dans une vision, mais Dieu montre par les faits que celui-ci n'est pas un chrétien. D'ailleurs, même 1 Corinthiens 5 dit que nous devons sortir le méchant du milieu de nous. Hein. Donc, dans les épîtres de Jean, c'est écrit même qu'il ne faut pas leur dire salut à certaines personnes qui se prétendent chrétiennes, mais alors qu'elles ne le sont pas. Voilà, mais il faut que Dieu montre cela. Ce n'est pas à nous de penser ça. Si quelqu'un lui affirme aimer Jésus, suivre Jésus, on doit considérer que c'est un enfant de Dieu. Maintenant, si on a des preuves, Dieu démontre clairement que ce n'est pas un enfant de Dieu. Là, c'est autre chose. Mais tant qu'on n'a pas ces preuves-là, nous devons toujours dans nos têtes nous dire, ça c'est la famille, c'est ma famille. Et bien aimé, nous connaissons la vie dans une famille, comment ça se passe. Chaque individu garde sa liberté, mais beaucoup de choses sont en commun. Le frigo, les toilettes, la cuisine, le canapé, beaucoup de choses sont en commun. Mais aujourd'hui, nous menons une vie d'indépendance, de séparation au milieu des enfants de Dieu. Une vie de projet absolument personnel. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Nous devons revenir au vrai évangile. J'entends des gens qui se plaignent, « Ah, mais il n'y a pas beaucoup de miracles à notre époque, il n'y a pas beaucoup ceci. » Mais oui, mais c'est normal. Il n'y a pas non plus beaucoup d'amour, il n'y a pas non plus beaucoup d'unité, il n'y a pas l'application de la parole. Nous sommes une famille, ce n'est pas vraiment appliqué. Ne serait-ce que amener un jour, tu sais que tu vas bosser avec les frères, tu amènes un thermos avec, si je dis du café, on va dire parce qu'il aime le café, mais tu amènes le chocolat chaud dans ton thermos. Voilà, on va venir là, on va bosser, allez, celui-ci fait telle chose, on finit, on est devenu des professionnels, donc il n'y a pas de communion, juste on travaille ensemble, c'est tout. Et c'est pourquoi, bien aimé, il y a parfois des problèmes graves, parce qu'il n'y a pas une vraie unité dans l'amour, parce que quand il y a une unité dans l'amour, on ne peut pas laisser son frère dans les problèmes. On ne peut pas, parce qu'il y a un lien d'amitié, d'amour. Vous savez, Jésus a dit aux disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'ils avaient atteint le stade d'amitié. Parce que rester dans le stade professionnel, il va manquer quelque chose. Vous savez, un professionnel, c'est un professionnel. C'est-à-dire, on te met dans un poste. Si tu n'es pas bon, il t'enlève. Lui, c'est le boulot qui compte. Le frère, il n'a pas fait le travail, on le déclasse. Un tel, ça, c'est le professionnel. Mais l'ami va dire non, je vais tout faire pour qu'il s'en sorte. Il n'arrive pas, je vais tout faire. C'est ça l'ami. L'ami va se souvenir, mais tiens, mais non, ça c'est mon frère, je ne peux pas le laisser dans telle situation. C'est très important, bien-aimé. À moins que les gens ne veuillent pas de notre amitié ou de notre amour, Nous devons toujours, dans notre cœur, garder un esprit d'amour, de paix, d'intercession, de prière et de manifestation de véritable amour. Moi, je ne veux même pas parler de la manifestation, parce que si vraiment on a ça, ça va se manifester tranquillement. Mais c'est vrai qu'on doit rappeler les choses afin que nous soyons, le cœur soit disposé. Et quand le cœur est disposé, la manifestation vient. Mais nous devons rappeler. Nous rappelons cela, bien-aimés, nous sommes une famille. Et le Seigneur dit dans Psaume 133, nous allons lire Psaume 133, nous lisons tous les passages, parce que je crois que la parole de Dieu est puissante par elle-même pour nous parler. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimé,
C'est vrai que lorsque les frères demeurent ensemble, il y en a qui vont faire quoi? Il y en a qui vont perdre. Il y en a qui vont gagner. Mais la somme, c'est quoi? C'est que tout le monde va gagner. Parce que si on est ensemble, eh bien, toi tu es un piéton. Bon, moi j'ai une voiture. Tu vas profiter de ma voiture. Mais moi dans la voiture, je veux bénéficier de quoi? De ton amour, de la grâce de Dieu. Et je veux bénéficier de quoi? Des promesses de Dieu. Puisque le Seigneur dit que celui qui s'occupe d'un de ses plus petits lui donne juste un verre d'eau. Parce qu'il est le disciple du Seigneur, il aura sa récompense. Moi, je bénéficie de quoi? Je bénéficie de la fidélité de Dieu. Je sais que même si je peux perdre ce que j'ai, en mettant cela à ta disposition, je sais que en me dépouillant ainsi, le Seigneur nous bénira tous, bien-aimés. Vous imaginez si dans un match de football, le joueur commence à dire, bon, lui, il ne fait pas beaucoup d'efforts, moi non plus, je ne fais pas beaucoup d'efforts. Mais qu'est-ce qui va s'en suivre? Eh bien, 4 à 0 ou 9 à 0. Mais qui va pleurer après? Est-ce que c'est seulement le fainéant? Tout le monde va pleurer. Qui est éliminé après? C'est tout le monde qui est éliminé. Mais alors que l'autre est paresseux, toi, tu montres beaucoup d'efforts. Au début, ça peut énerver. Mais quand tu insistes, l'autre se dit, tiens, j'ai un allié de poids, mais il faut que je me réveille pour l'aider. Voilà. Mais dès que l'autre montre des signes de faiblesse, eh bien toi, tu dis, bon, nous tous, on va faire pareil. Mais vous tous, vous allez faire pareil. Mais qui va relever l'autre? Ce n'est pas normal. Donc nous devons comprendre, c'est vrai, que dans la relation de famille, il y aura comme des pertes. Il y a des gens qui auront l'impression qu'ils sont en train de donner plus que d'autres. Mais c'est normal. Il y a un va-et-vient. Aujourd'hui, c'est toi qui donnes. Un autre jour, c'est toi qui recevras. C'est ça la famille. Les parents élèvent les enfants. Au début, c'est les parents qui donnent tout. Mais un jour, c'est les enfants qui vont donner. C'est ça la vraie famille. On ne doit pas regretter de donner. On ne doit pas regretter de perdre. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut perdre dans les relations. L'honneur, une certaine place. On ne doit pas regretter. Si vraiment dans ton cœur, tu as l'esprit de la famille de Dieu, tu vas persévérer dans ton cœur, dans l'amour. Même s'il peut y avoir une sorte de séparation physique, le cœur persévère dans l'amour, bien-aimé. C'est important. Je ne suis pas en train de parler que des églises locales. Je parle de l'église du Seigneur. Nous devons avoir cette attitude de famille. Pourquoi, bien-aimé? On a déjà trop d'ennemis comme ça. Nous n'allons pas rajouter encore d'autres. Le monde nous déteste. Les démons nous détestent. La chair nous fait des problèmes. Nous n'allons pas rajouter encore des problèmes entre nous, chrétiens bien-aimés. Je ne suis pas en train de dire qu'on doive faire l'œcuménisme ou quoi que ce soit. Non. Quand tu discernes que quelqu'un est chrétien, évite d'avoir des problèmes avec lui. Évite. Il est écrit rechercher la paix avec tous. Évite d'avoir des problèmes. Parce que tu as déjà beaucoup trop d'ennemis, tu ne vas pas faire de ton frère un ennemi encore. Soyons bien-aimés dans cette logique familiale. Beaucoup bien-aimés se concentrent que sur leur propre famille dans la chair. Mais bien-aimés, quand tu vas bien observer, tu vas voir qu'il n'y a pas vraiment d'avancement spirituel. Parce que tu cherches le salut de tes enfants, le salut de tes cousins, de tes frères, d'une manière charnelle. Tu veux juste que les gens que tu aimes par la chair puissent aller au ciel. Mais tu négliges la famille de Dieu. Et il y a des blocages. Bien-aimés, réveillons-nous. Et considérons la famille que Dieu nous a donnée. Il a dit à sa propre mère, voici ton fils. Quelqu'un qui n'est pas de la même famille physique. C'est parce que dans tout cela, il y a la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour faire de nous des citoyens du ciel. Mais pourquoi on va faire marche arrière? Il vient, il fait de nous des citoyens du ciel, il nous fait une famille. Après nous, la famille que lui nous fait, nous la rejetons pour s'accrocher à la famille physique. Mais le Seigneur va dire, mais pourquoi je suis venu finalement pour cet homme ou pour cette femme? Je suis venu pour lui donner une nouvelle vie. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Revenons, bien-aimés, à la logique de famille chrétienne. C'est ça qui fera que nous serons forts pour sauver un grand nombre de gens. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous avons lu ça. Les gens observaient les chrétiens dans l'unité, dans l'amour. Et ils se convertissaient en grand nombre. J'ai voyagé 5 jours, j'étais pour faire un stage et le frère me disait, mais bon, lui, il était païen et quand il était païen, il cherchait quelque chose, il cherchait la vérité. Bon, il a touché à certains trucs ésotériques, mais bon, rien n'a marché. Et puis un jour, un évangéliste lui parle avec sa femme. Ah, ils étaient intéressés, mais vraiment, c'est ce que nous cherchons le Seigneur. Ils ont été touchés. Et puis, comme l'évangéliste le visitait, pour continuer toujours à les exhorter, pour finalement les amener au baptême, et c'était un réveillon. Et puis, il leur dit, mais tiens, ben, écoutez, je suis invité à passer la nuit dans une famille chrétienne, mais je vous invite aussi. Oh, ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais non, mais c'est toi qui es invité. Il a dit, mais non, il n'y aura pas de problème. Venez. Bien aimé, il fallait en plus dormir sur place. Nous connaissons la France, hein. Donc il faut, même entre frères de la même famille, il faut s'inviter. À combien plus forte raison des étrangers. Et il ne comprenait pas, il dit, mais oh, mais cet évangéliste. Alors il a vu en train d'appeler les autres, la famille. Et je vous amène, en plus, il n'était pas seul, environ 4 enfants, et lui et sa femme. Je vous amène une famille pour le réveillon. Et il entend là-bas la voix dire, d'accord, pas de problème. Oh, il dit, mais ce n'est pas possible. Ils n'ont même pas discuté. Mais il débarque. Il voit, il dit, j'arrive sur place, je vois le monsieur, le père de la famille, il appelle son aîné, son fils de 18 ans. Allez, va les aider à dégager, à décharger. Amène-les dans tel endroit, arranger telle chose. Il dit, mais on l'obéit. Moi, mes enfants de 4 ans, ils avaient déjà du mal à m'obéir. J'arrive quelque part, je vois des enfants de 18 ans obéir à leur papa. Je dis, mais non, ici, il y a quelque chose là. Je dois prendre ce Dieu-là. Amen, bien-aimé. Il dit, j'avais du mal avec mes enfants de 5 ans. Ils me repoussaient, ils répondaient mal. J'arrive là sur place, je vois les enfants de 18 ans obéir à leur père en souriant. Il a dit, non, il y a quelque chose là. C'est la vie qui se trouve dans ce lieu. Il s'est converti. Donc quand on a dit baptême, il a dit, je saute, pas de problème. Il saute, il plonge même, bien-aimé. Amen. Mais quand c'est comme ça, tu plonges, tu as connu 15 ans, 10 ans de galère. Les enfants de 7 ans, de 5 ans, ils ne t'obéissent même pas. Tu arrives quelque part, on te parle de Jésus, tu vois, mais on t'accueille. On te fait dormir, mais ce n'était pas prévu. Ils ne te connaissent même pas. Parce que tout simplement, tu es un aspirant chrétien. Ils font tout pour toi. Il a dit non, moi c'est ce Dieu-là que je veux. Amen. C'est ça la différence avec le monde. La famille de Dieu. La famille de Dieu. On ne compte pas le nombre de morceaux de viande, non. La famille de Dieu, c'est « Allez, Dieu va multiplier, on y va. » « Go » en anglais. « On y va. » Ah, mais on n'avait pas prévu. Non, allez, Dieu va multiplier. Il n'a pas changé. On y va. Invitez-les qui viennent. On ne va pas donner un journal à quelqu'un de lire en attendant. Non. On sait que Dieu veut que sa famille fonctionne. Amen. Dans une famille, il y a des gens qui vont perdre. Il y a des gens qui vont gagner. Et puis vice-versa tout le temps. C'est ça l'amour. La famille, ce n'est pas le calcul. C'est l'amour, bien-aimé. Nous devons entrer dans cette vie familiale des enfants de Dieu. Ne pas hésiter à partager. Ne pas hésiter à vivre ensemble. Considérer ses propres biens comme étant les biens de tous. C'est ça la famille de Dieu, bien-aimé. Oui, La chair va te dire, mais oui, mais l'autre risque de casser, mais ce n'est pas grave. S'il casse, Dieu va donner un autre. C'est tout, bien-aimé. C'est aussi simple que ça. Si nous avions un père, smicard, bon, là, on comprendrait peut-être, bon, qu'on ait le peur, bon, notre père, il est smicard, bon, il ne peut pas trop remplacer les choses que les frères vont casser. Mais notre père, il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, tout ce que les frères et sœurs vont casser, le père va. Mais, bien-aimé, vous connaissez la loi, non? Un enfant mineur qui fraude au métro, dans le métro, dans un bus, qui paye? C'est son père, hein? Mais si le frère chrétien à qui tu as prêté la maison ou la voiture casse, qui va payer? C'est leur papa. Et leur papa, est-ce qu'il manque? Il ne manque pas. Il en a. S'ils viennent dépouiller ta nourriture, qui va payer? C'est leur papa. C'est simple. Et ce papa-là a dit qu'il ne sera le débiteur de personne. Il payera. Ce qui nous bloque pour vivre la vie familiale, c'est qu'on a peur de perdre. N'ayons pas peur de perdre. Mais déjà, on devrait être prêt à perdre même, si, même s'il n'y aura pas retour. Mais nous, nous savons que c'est les biens du Seigneur, nous les mettons à disposition et forcément, il remplacera. Parce qu'il nous aime, nous sommes ses enfants. C'est ça, bien-aimé. Nous devons changer de mentalité, vivre la famille de Dieu. On peut trop parler, faire des grosses campagnes d'évangélisation dans des stades. Si nous ne vivons pas la famille de Dieu, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Nous devons vivre la famille du Seigneur. Selon la conduite de Dieu. Bien sûr, j'entends certains dire, mais après il y aura des parasites, des faux frères. Comment dire? Ça a existé. Hein? Vous allez lire dans 2 Timothée, 2 Thessaloniciens plutôt. Paul parle de gens qui passe à midi chez les veuves, aller en train de faire les faux enseignements pour manger, au fait, et puis faire des choses. Et puis il dit, attention, ces gens-là, il ne faut même pas leur donner parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Quand on voit que quelqu'un, en réalité, c'est un parasite, on lui dit, mes frères, on dirait, là, c'est comme si tu devenais un peu parasite, là. Mais on ne dit pas ça parce qu'on a peur qu'il nous prenne nos choses. On lui dit pour son bien. Parce que nous, on n'a pas peur. Même si on nous dépouillait, par quiconque le Seigneur va redonner. Mais on ne veut pas laisser le frère dans l'erreur. Le frère, là, la parole dit qu'il faut travailler. Là, tu commences à parasiter, ce n'est pas bon. Comment tu vas faire quand tu auras une famille? Voilà. Comment tu vas faire quand tu seras un responsable? Un responsable s'occupe des brebis. Là, toi, tu es toujours en train de parasiter. Ce n'est pas bon. Donc, si on voit des erreurs, on aura le courage de dire la vérité parce qu'on a le courage de tout donner. On a le courage de se donner, on a aussi le courage de dire la vérité. Donc n'ayons pas peur des abus, n'ayons pas peur des gens qui vont vouloir profiter du système. Le Saint-Esprit va les récaler. Amen. Un jour, ils vont venir là, mais vous êtes en jeûne ce jour-là. Et le Saint-Esprit va les récaler, bien-aimés. N'ayons pas peur du système de Dieu. Ça fait peur à la chair, parce qu'on se dit, mais oulala, j'aurai plus ma liberté. Comme à une époque, dans le milieu où nous étions, la mode c'était que les pasteurs débranchaient leur téléphone à 21h, ou il y en a qui débranchaient à 21h, d'autres débranchaient à 22h. Bien sûr, pour de bonnes raisons. Okay? Vous savez, les raisons, il y en a qui disaient, j'ai une vie familiale. D'autres disaient, il me faut un moment intime avec le Seigneur, tout seul avec lui. Donc, il y avait toujours des raisons comme ça, apparemment bibliques. Apparemment bibliques. Mais en réalité, c'était l'égoïsme. Comment toi qui es pasteur, pourquoi on t'a oint? On t'a oint pour s'occuper des brebis. Là, il est écrit, Jésus a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Comment tu peux débrancher ton téléphone à 22h ou à 21h sous prétexte que tu dois avoir une intimité avec Dieu? Dieu ne sait pas que tu dois avoir une intimité avec lui. Qui te dit qu'on va t'appeler ce soir? Toi, tu connais l'avenir. Oh, mais non, mais régulièrement, mais non. Dieu sait que tu dois t'occuper de ta famille. Il sait que tu dois t'occuper aussi de ta vie intime avec lui. Il s'occupera de te donner du temps pour ta famille. Il s'occupera de te donner du temps pour ta vie intime avec lui. Dieu est bon. Dieu n'est pas méchant. Il est bon. Et il va s'occuper de nous, bien-aimés. Dans la vie chrétienne, il y a aussi des temps. Il y a des temps où Dieu voudra physiquement qu'on vive le fait qu'il est le premier dans notre vie. Ce n'est pas qu'on néglige notre famille, ce n'est pas qu'on néglige son mari ou sa femme, mais il y a des temps où Dieu voudra que ce que nous connaissons théoriquement, que Dieu est le premier, que nous le vivions physiquement. Il permettra des temps où nous ne serons pas disponibles directement pour nos familles physiques, mais c'est fait parce qu'il faut bien un temps où ça se prouve que Dieu est le premier. Mais ce temps-là passé, le Seigneur va rééquilibrer les choses, de sorte que nous soyons d'ailleurs un témoignage, parce que quel est ce témoignage si tu n'arrives pas à t'occuper de ta famille ? C'est un mauvais témoignage. Mais le Seigneur peut permettre des temps de soif, des temps de feu, où il te pousse à quelque chose. Ça peut paraître un peu comme de l'irresponsabilité vis-à-vis de ta famille. C'est faux. On a vu ça avec le Seigneur lui-même. Il y a eu un temps où il est entré dans le ministère, il a semblé être éloigné de sa famille physique. Mais qu'est-ce qu'on retrouve à la fin là ? N'est-ce pas lui qui se soucie de sa mère ? C'est lui. Donc il y a des temps où Dieu peut nous amener dans une grande soif de lui pour exercer certaines choses, pour grandir. Et après ces temps-là, le Seigneur nous aidera. Il y a des temps où notre maison sera sale. Parce que ben, on n'a pas le temps, parce qu'en ce moment-là, on a la soif de Dieu, il y a des choses à... Ben, voilà. Il y a des temps comme ça. Nous ne devons pas chercher à être au top partout. Cherchons à être obéissants à Dieu. Et il y a des temps où nous semblerons être négligents par rapport aux autres. Mais c'est parce que Dieu veut qu'on mette en premier d'abord sa famille. C'est clair. Quand Jésus, on est venu le voir dans Matthieu 12, par Marie et les frères et sœurs, on a dit à Jésus, mais ta mère, tes frères et sœurs sont dehors. Mais Jésus était en train de prêcher. Jésus a dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Nous lisons dans Matthieu 12. Matthieu 12, à partir du verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Amen. Voilà, bien-aimés, ce qui est dit. Alors, qui sommes-nous, les chrétiens d'aujourd'hui, pour changer ce que Jésus a dit clairement par rapport à la famille spirituelle, par rapport à la famille de Dieu? Il a dit clairement, bien-aimés, il n'y a pas d'équivoque, c'est clair. Ceux qui font la volonté de mon père, voilà mon frère, ma mère et ma sœur. Mais est-ce que ça veut dire qu'on néglige la famille physique ? Non. On doit se considérer maintenant comme missionnaire dans la famille physique. On est missionnaire dans la famille physique. Autrefois, bien-aimés, comme j'ai l'habitude de dire, on n'a pas choisi nos parents. Mais étant devenu adulte, on a pu choisir notre père. On a décidé que Dieu devienne notre père. Alors, on ne peut pas reculer alors que nous avons décidé ça, personnellement. Quelqu'un peut toujours dire, tiens, je n'ai pas choisi mes parents, j'en veux plus d'eux, je veux plus d'eux. On peut encore discuter de cela. Mais un chrétien, peut-il dire, je ne veux plus de Dieu comme père? Mais non, c'est toi qui l'as choisi. En naissant de nouveau, il est devenu ton père. Mais maintenant qu'il est devenu ton père, tu dois vivre en famille. Et la famille, c'est la famille des nés de nouveau, la famille des enfants de Dieu. Est-ce que tu vis une vie familiale? C'est ça la question, bien-aimé. Et il y a des gens qui vont appeler ça intrusion dans la vie privée. Non, moi j'ai dit un chrétien n'a pas de vie privée. Il n'a de vie privée que lorsque c'est des bonnes choses, c'est-à-dire lorsqu'il fait une bonne action. Il ne faut pas forcément que les gens sachent. Lorsqu'il fait des bonnes choses, il prie beaucoup, ce n'est pas obligé que les gens sachent. Mais dire que, bon non, j'ai une vie privée, mais quelle vie privée? Tu caches quoi? Il n'y a rien à cacher, bien-aimé. Un chrétien est transparent. Voilà. Il est un sacrifice pour l'humanité. Vous savez, Jésus, quand on est venu l'arrêter la nuit, il a dit, « Oh, mais comment vous venez m'arrêter la nuit ?» J'étais toute la journée en train de prêcher dans le temple, devant tout le monde. Moi, je ne me suis pas caché. J'étais évident vis-à-vis de tous. J'étais clair. Vous venez m'arrêter maintenant la nuit, en cachette, bien-aimé. Non, la vie du chrétien est transparente. Elle est transparente. Sinon, tu caches les mauvaises choses alors. Si tu n'as rien à cacher, eh bien, tu dois être transparent. Maintenant, si tu as quelque chose à cacher, le Seigneur te dévoilera un jour ou l'autre. Il permettra qu'on te surprenne. Mais c'est une bonne chose. Au moins, en te surprenant, tu vas changer. Dans tous les cas, évitons les concepts de vie privée. Parce que le concept de vie privée n'est pas biblique. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie d'un enfant de Dieu. En communion avec son Père et dans la transparence devant l'univers, devant le monde entier. C'est ça, bien-aimé. Et devant aussi les frères et sœurs. Parce que Dieu veut que nous vivions en famille. Il y a des difficultés, mais nous devons garder cela en esprit. J'étais dans la région de Valence et les bien-aimés avaient fait un barbecue géant pour les habitants de la ville de Valence. Mais comme c'était beau, les chrétiens qui servaient les hot dogs, c'était caché dans le pain et les gens venaient. Après, on discutait avec eux. Bien aimé, ils ne me connaissaient même pas. Bon, le frère m'a présenté. Ah bon, tu peux devenir accueillant. On m'a mis le badge. Allez, on y va au boulot, bien aimé. Comme c'était bien. Parler aux gens. On travaille ensemble. Celui-là fait la cuisine. Il n'y a pas quelqu'un qui se précipite, il veut prêcher, il veut... Non. Qu'il est doux et agréable, pauvre de frère, de demeurer ensemble. Et les païens disaient, mais c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien. Bien aimé. Là, les préjugés tombent. Les préjugés tombent. Mais quand les païens nous observent, ils ont l'impression qu'on ressemble à eux. Mais quel intérêt! Je vous ai parlé de ce frère qui a vu la différence quand il est parti dans une famille chrétienne. Qui a vu la différence? On l'a invité par des gens qui ne connaissaient pas. Il a vu la différence, bien-aimé. Réveillons-nous par rapport à ces notions-là. Le diable veut diviser pour mieux régner. Il veut nous enlever l'amour les uns pour les autres. Ne permettons pas cela, bien-aimé. Vivons pleinement la vie de famille. Il y a beaucoup à dire, mais je vais dire quelque chose d'important. Vous savez, David, on l'appelle comment? Par Dieu lui-même. Il a dit de David, c'est l'homme selon mon cœur. Nous allons vers une démonstration. De Samuel. Démonstration de ce que Dieu dit sur David. Alors, avant de lire ça, je donne le contexte. Vous savez que David, c'était un jeune berger et par les circonstances voulues de Dieu, Dieu a été fait roi. Mais alors qu'il y avait toujours le roi officiel. Il y avait le roi officiel d'Israël. Mais le prophète qui avait oint le roi officiel, Dieu lui a demandé d'aller oindre David comme roi. Samuel, il a oint David comme roi en secret. David, dans son cœur, il savait que c'était lui le véritable roi. Mais il y avait quand même un roi officiel. Et David respectait la forme. Donc, il savait que bon, il y a un roi officiel. Même si c'est moi qui suis le véritable, ben, je laisse le roi officiel travailler jusqu'au jour où Dieu officiellement aussi m'établira. Donc là, il m'a établi roi en secret, mais je ne suis pas encore roi officiellement. Et dans sa qualité de roi en secret, il a vu qu'Israël était en danger face à Goliath et les Philistins. David a défendu le royaume de son père, le royaume de Dieu, le royaume d'Israël, parce que dans son cœur, il savait que c'était lui le roi. Il ne pouvait pas laisser les enfants d'Israël comme ça. Il a battu Goliath et le succès de David et monter fort. Alors, le roi officiel, Saül, est devenu jaloux de David. Il commençait à chercher à le tuer. Et en cherchant à le tuer, David a fini, après avoir été protégé plusieurs fois par Jonathan, le fils de Saül, et aussi sa femme, eh bien, David a fini par fuir. Mais malgré sa fuite, Saül le poursuivait. Il le poursuivait à tel point que David est parti se cacher chez les ennemis, chez les Philistins. Chez d'autres encore, un jour, il a même fait le fou pour échapper à des gens qui l'ont reconnu. Puisque comme David était, après avoir battu Goliath, il était devenu un général de l'armée de Saül, un combattant. Eh bien, les ennemis le connaissaient. Et devant les ennemis, il a fait le fou pour échapper. Vous voyez quelle souffrance, juste à faire le fou. Tout cela pour fuir qui? Pour fuir Saül. Alors que qui a été un roi en secret? C'est David. Donc David avait toutes les raisons de dire, mais après tout, c'est moi qui ai été un roi, je vais me battre. Non, il a dit non, je fuis. C'est loin de l'Éternel. Je dois respecter l'ordre de Dieu. Et deuxièmement, je dois préserver notre race. David ne voulait pas de guerre civile. Parce qu'il se disait, mais si je fais une guerre civile, c'est ma race qui va en pâtir. C'est Israël, le peuple de Dieu, qui va en pâtir. Voilà quelqu'un qui était attaché à la famille de Dieu. Il dit non, c'est vrai que là, je suis en position dangereuse. Si je veux me défendre vraiment, c'est ma famille qui va avoir des problèmes. C'est Israël qui va avoir des problèmes. Je préfère fuir. Il a connu toutes sortes de galères, mais il préférait rester dans ces galères plutôt que d'aller créer une guerre civile. Mais voilà maintenant, c'est que la chair proposée à David, nous allons lire cela, nous allons voir le contraire avec David. Après la mort de Saül, 2 Samuel chapitre 1er, voilà. 2 Samuel chapitre 1er. Après la mort de Saül, David qui avait battu les Amalécites était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu ? » Et il répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé ? Dis-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance, et voici, les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, « Me voici. » Et il me dit, « Qui es-tu ? » Je lui répondis, « Je suis Amalécite. » Et il dit, « Approche donc et donne-moi la mort. » Car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. À cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu ? » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'un de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, « J'ai donné la mort à l'un de l'Éternel. » Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisies, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Bien-aimés, voilà comment David pleurait pour celui qui voulait le tuer. Il a même tué celui qui prétendait avoir tué son ennemi. Qu'est-ce que les gens d'aujourd'hui diraient? Ils sauteraient de joie. On vient de dire que celui qui cherchait à te tuer, il a été tué. Tu sautes de joie, Dieu m'a délivré. Non, David n'a pas sauté de joie. On vient t'informer qu'un chrétien qui parlait mal de toi, ben il a un problème maintenant. Tu sautes de joie, Dieu a jugé. Non, bien aimé. Le vrai jugement de Dieu, c'est la vérité dans le cœur. C'est-à-dire que Dieu parlera à cette personne-là, il saura qu'il est dans l'erreur. C'est le jugement que nous, on doit souhaiter. Le reste, ce n'est pas notre problème. Parce que c'est des gens de la même famille. Maintenant, il y en a peut-être qui ne le sont pas. Mais officiellement, ils le sont. On doit les considérer comme de la même famille. On apprend qu'un serviteur est tombé, on saute de joie. Non. On doit regretter. Maintenant, si c'était un infiltré, bon, si Dieu nous a montré que c'était un infiltré dès le départ, là c'est autre chose. On ne va non plus sauter de joie, mais on dit, ben voilà, il reçoit le salaire de ce qu'il a semé. Mais si on sait que c'était un vrai chrétien qui tombe, on doit regretter. On ne doit pas sauter de joie parce que ce chrétien-là s'est opposé à nous, ou d'une manière ou d'une autre. Non. C'est la famille de Dieu. David était menacé par Saül. Il voulait le tuer. Mais il ne pouvait pas être content parce que Saül, c'était le roi d'Israël. Pour David, tuer Saül, c'est l'honneur d'Israël qui part. C'est pourquoi il regrettait. Il aurait préféré qu'il meure d'une maladie. Il dit, mais non, un héros ne peut pas mourir au combat. Saül ne devait pas mourir au combat. Il aimait Saül. Vous rendez compte? Malgré tout ce que Saül faisait, mais il aimait en tant que roi. Il dit, c'est notre roi. Il faut que notre roi réussisse parce que c'est notre honneur. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas publier ça chez les Philistins parce que les filles des Philistins vont se réjouir. David se soucie, pas de lui, mais il se soucie de l'honneur d'Israël, de l'honneur de la famille de Dieu, bien-aimé. Soucions-nous de l'honneur de la famille de Dieu. Ne nous laissons pas voir par le diable qui va vouloir diviser en faisant des chrétiens nos ennemis. Non, résistons à ça. Il y a des moments où on est un peu touché, mais réveillons-nous, disons non. Ça, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est de combattre le diable. Mon domaine, c'est de combattre les fausses doctrines. Mon domaine, c'est de combattre pour la vérité. Et même quand il y a des gens, on n'a pas à 100% les mêmes doctrines. Mais même du moment qu'on sait qu'ils aiment vraiment le Seigneur et qu'ils suivent le minimum de vérité, un certain minimum de vérité, nous ne devons pas être là à souhaiter le mal. Bien-aimés, que Dieu nous donne le discernement pour qu'on réalise qui est de lui, qui n'est pas de lui. Et quand on ne le sait pas, nous ne devons pas supposer. Quand on ne le sait pas, nous devons considérer qu'ils le sont. Maintenant, quand on le sait, alors là, on dit, bon, là, il n'est pas chrétien, mais ça, c'est autre chose. Mais quand je dis autre chose, ça ne veut pas dire qu'on se réjouisse du mal qui peut lui arriver ou quoi que ce soit. C'est juste que ce n'est pas de ta famille, c'est clair. Donc, on ne peut pas forcer cela. Restons bien-aimés dans une attitude d'amour et de paix, de construction, dans une attitude de famille de Dieu. C'est très important. Que notre raison ne devienne pas une occasion pour se battre avec les autres chrétiens. Tu as raison, compte sur Dieu. Dieu est tout puissant pour s'imposer. Ne fais pas d'un autre chrétien un ennemi parce que tu as raison. Qu'un songe, une vision, ne devienne pas un élément que tu vas utiliser pour te considérer l'autre ennemi. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur rendra évident les mauvais fruits à partir desquels nous pourrons dire, il n'est pas de notre camp, il n'est pas chrétien, c'est un infiltré, c'est quelqu'un qui travaille pour le diable. Les fruits visibles seront là. Que les songes, les rêves, les visions ne deviennent pas un moyen pour se créer des ennemis. Non, bien-aimés. Restons dans le visible, parce que Dieu est tout puissant pour rendre visible ce qui est caché. Il est écrit d'ailleurs, il n'y a rien de caché qui ne doit être... Voilà, donc tout ce qui est caché va être mis à la lumière. Soyons patients, nous estimons que quelqu'un n'est pas chrétien. Soyons patients, le Seigneur mettra cela à la lumière. Le jour où il mettra ça à la lumière, on pourra dire, oui c'est vrai, il n'était pas de notre famille. Comme il est écrit dans les Épîtres de Jean, certains ont quitté Dieu. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Voilà. Mais tant qu'ils étaient au milieu de nous, ben, ils étaient des nôtres. Mais le jour où Dieu les sortira du milieu de nous, clairement, avec les mauvais fruits, on pourra dire ils n'étaient pas des nôtres. Mais tant que Dieu ne l'a pas fait, nous devons les considérer des nôtres, prier pour eux, faire en sorte que... quand je dis des nôtres, ça ne veut pas dire forcément dans une assemblée. Ça peut être, je parle dans du corps du Christ. Donc, tant que quelqu'un est dans le corps du Christ officiellement, ben bon, on continue à considérer que c'est un chrétien. Mais le jour où les fruits montreront que alors là, il a quitté le corps du Christ, il a quitté la doctrine biblique, là, on dira bon, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais en tout cas, nous, tant que quelqu'un se réclame de Jésus, nous devons avoir une pensée de famille vis-à-vis de lui. Considérer que c'est quelqu'un pour qui nous devons prier. Même si on a des convictions que c'est un faux, mais du moment qu'officiellement, le Seigneur le laisse, ne dévoile pas ses fruits mauvais, nous ne devons pas utiliser nos convictions pour être un blocage pour la prière. Nous devons toujours considérer que Dieu veut qu'on prie, Dieu veut qu'on travaille. Vous pensez que Jésus ne priait pas pour Judas? Mais pourtant, il le sait dès le départ qu'il était mauvais. Mais priez pour lui parce que son père a décidé qu'il soit parmi les disciples. Du moment que son père a décidé qu'il soit parmi les disciples, lui est pris pour lui, sachant qu'il finira mal. Il le savait tout ça, mais il est parmi les disciples. Jésus devait faire sa part de prier pour lui, de faire en sorte qu'il soit sauvé. C'est cela, bien-aimé. Et le jour où ça s'est dévoilé, Jésus a été dur. Hein? Vous voyez que c'est que Jésus a dit? Jésus a dit que celui qui me trahit vaut mieux, comment dire, qui se mette quelque chose pour se noyer. Hein? Jésus a été dur. On a vu la suite sur Judas. Il a dit dès le départ, c'est un démon. Mais avant ça, tant que Dieu ne dévoile pas, Jésus est resté dans une attitude correcte. Judas continue à gérer l'argent. Et quand Dieu a dévoilé clairement devant tout le monde, Jésus aussi a dénoncé. Mais malgré la dénonciation de Jésus, Jésus l'appelle toujours « mon ami ». Quand on vient le trahir, Jésus dit, ah mon ami, fais ce que tu as à faire. Parce que, voilà, Jésus avait de l'amour pour lui. Nous avons lu, David qui dit, Saül, pourquoi tu es tombé dans le combat? Toi tu es un grand, un fort. Pourtant c'est son ennemi le plus redoutable. Il dit non. On doit se dire, mais tiens, moi j'ai connu ce frère-là. Quand il priait, oh. Maintenant, j'apprends qu'il est tombé. Maintenant, j'apprends qu'il s'est éloigné de Dieu. Moi, j'ai connu une telle sœur quand elle chantait. Les vitres bougeaient, mais maintenant, on doit regretter, bien-aimé. On ne doit pas se réjouir. Dire, ah, elle croyait que sa voix, c'était... Mais non. Donc, comment tu peux réagir comme ça vis-à-vis de quelqu'un qui est encore peut-être ton frère ou bien ou ta sœur ou qui l'a été? Non, bien-aimé. Ayons le même esprit que David. D'abord, l'honneur de la famille. Son honneur personnel de côté. L'honneur de la famille de Dieu. L'honneur de Dieu, bien-aimé. C'est important. La famille du Seigneur. Entrons dans cela. J'ai été berger 5 jours. J'étais dans la joie, dans une famille. Je me suis senti comme chez moi. Bien-aimé, c'est très beau de vivre cela. C'est très beau. C'est très beau. Nous devons perpétuer cela afin que le monde voit que nous sommes de Jésus. Le Seigneur a dit, si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes de moi. C'est ça, bien-aimé. Persévérons. Ce n'est pas facile, mais quel est le choix que nous avons fait? Posons-nous cette question. Nous avons fait le choix de ressembler à Jésus. Bien, allons jusqu'au bout. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, Seigneur, qui nous rappelle les vérités fondamentales de l'Évangile, Seigneur. Nous savons que gérer tout ce qu'on vient d'entendre peut paraître difficile, mais nous croyons, Seigneur, que tu nous donneras à chaque fois le discernement de gérer cela comme il faut, Seigneur, parce que tu es bon et fidèle. Seigneur, nous voulons renouveler notre engagement à te suivre dans les termes fixés par toi-même, d'aimer ceux qui nous haïssent, de bénir ceux qui nous persécutent, dans les termes fixés par toi-même. Lorsque tu dis que Jean était le fils maintenant de Marie et Marie était sa mère, nous voulons nous aussi, comme Paul a dit à Timothée, considérer les femmes d'un certain âge comme des mères, les hommes d'un certain âge comme des pères, dans le nom de Jésus-Christ, et les autres comme des frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur, à vivre la vie chrétienne, véritable, la vie de famille. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes Avec les chrétiens de la Suède, nous sommes un. Avec les chrétiens égyptiens, nous sommes un.
Esprit de Dieu, nous sommes un.
La nouvelle famille, la famille de Dieu. Avec les chrétiens du Japon, du Gabon, du Nicaragua, nous sommes un. Avec les bien-aimés d'Iran, nous sommes un. Ceux du Maroc, nous sommes un. Les bien-aimés des autres églises, à Rouen, nous sommes un. Oh. Ceux qui prient dans les maisons, nous sommes un. Nous sommes un. La famille qui ira au ciel, c'est la famille de Dieu. Nous venons prier aussi pour l'unité dans les familles chrétiennes. Là où les parents sont chrétiens, les enfants sont chrétiens. Nous venons prier pour l'unité, Seigneur. Parce que ce sont des églises. Ô Père éternel, agis en sorte que les parents puissent s'humilier l'un vis-à-vis de l'autre. Que chacun porte sa croix tout en maintenant la vérité. Ô Seigneur. Fais en sorte, Père, que les parents puissent prendre les précautions qu'il faut, aimer leurs enfants, prendre les précautions qu'il faut pour leur éviter les dangers, Seigneur. S'humilier aussi devant les enfants. Être les mêmes dans les assemblées que chez eux à la maison, ô Seigneur. Afin que les enfants ne trouvent pas cela comme une trahison, une déception de les voir changer, avoir des attitudes différentes en fonction des lieux. Ô Seigneur, merci d'agir. Merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ pour constituer cette famille. Comme c'est écrit dans Romains 8, qu'il est le premier-né de plusieurs frères que nous sommes. Alléluia. C'est lui Emmanuel, Dieu parmi nous. Et nous voulons encore l'accueillir en ce moment. Qu'il soit notre aîné, notre berger. C'est lui qui nous réunit, c'est lui qui nous donne des instructions.
Emmanuel. Emmanuel. Il s'appelle. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, il s'appelle, oh. Dieu se révèle en Jésus. Parmi nous, son nom Emmanuel.
Jésus, nous te suivons, Seigneur. Merci de nous conduire dans les verts pâturages. En marchant pas à pas jusqu'à entrer dans la maison du Père au ciel. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est un grand jour pour nous parce que